Les pêches par André Thériet. La première fois que je revis, après 25 ans, mon vieux copain Vital Herbelot, ce fut dans un banquet des anciens élèves d'un lycée de province où nous avions pioché notre bachot. Ces sortes de réunions se ressemblent presque toutes. Poignées de main, reconnaissance bruyante, tutoiement qu'on est étonné de reprendre après un silence d'un quart de siècle, constatation mélancolique des changements apportés par les années dans les physionomies et les fortunes. Puis, le discours solennel du président, les toasts, les évocations des souvenirs du collège, dont le temps a évaporé les amertumes, pour ne laisser subsister que la meilleure saveur des jours où chacun de nous tenait dans sa main une boîte de Pandore pleine d'espérances dorées. Je fus passablement surpris de trouver un Vital Herbelot tout différent de celui dont j'avais gardé souvenance. Je l'avais connu mince et timide, tiré à quatre épingles, correct et réservé, réunissant toutes les qualités aimables d'un jeune surnuméraire qui veut faire son chemin dans l'administration où sa famille l'a casé. Je revoyais un gaillard solide, membru, au cou et au teint hâlé, ayant l'œil vif, le verbe haut, net et éclatant d'un homme qui n'est pas habitué à peser ses paroles. Avec ses cheveux coupés en brosse, son complet de drap anglais, sa barbe poivrée en éventail, il avait en toute sa personne quelque chose d'aisé, de décidé, de désinvolte, qui ne sentait en rien le fonctionnaire. « Ah ça, lui demandai-je, qu'es-tu devenu? N'es-tu plus dans l'administration ?»« Non, mon vieux, répondit-il, je suis tout bêtement cultivateur. Je fais valoir à une demi-lieue d'ici, à Chantraine, une propriété assez ronde, où je sème du blé, et où je récolte un petit vin pinot dont je te ferai goûter quand tu viendras me voir. » « En vérité, m'écriai-je, toi, fils et petit-fils de bureaucrate, toi, considéré comme le modèle des employés et auquel on prédisait un brillant avenir, tu as jeté le fracas aux orties. Mon Dieu, oui. Comment cela est-il arrivé ?»« Mon cher, répliqua-t-il en riant, les grands effets sont souvent produits par les causes les plus futiles. J'ai donné ma démission pour deux pêches. Deux pêches ? Ni plus ni moins. Et quand nous aurons pris le café, si tu veux m'accompagner jusqu'à Chantraine, je te conterai cela. » Après le café, nous quittâmes la salle du banquet, et tandis qu'en fumant un cigare, nous longions le canal par une tiède après-midi de septembre, mon ami Vital commença son récit. « Tu sais, me dit-il, que j'étais un enfant de la balle, et que mon père, vieil employé, ne voyait rien de comparable à la carrière des bureaux. Aussi, dès que je fus débarrassé de mon baccalauréat, on n'eut rien de plus pressé que de me caser comme surnuméraire dans l'administration paternelle. Je ne me sentais pas de vocation bien déterminée, et je m'engageais docilement sur cette banale grande route de la bureaucratie où mon père et mon grand-père avaient lentement mais sûrement cheminé. J'étais un garçon laborieux, discipliné, élevé de le berceau dans le respect des employés supérieurs et de la déférence qu'on doit aux autorités. Je fus donc bien noté par mes chefs, et je conquis rapidement mes premiers grades administratifs. Quand j'eus 25 ans, mon directeur, qui m'avait pris en affection, m'attacha à ses bureaux et mes camarades envièrent mon sort. On parlait déjà de moi comme d'un futur employé supérieur, et on me prédisait le plus bel avenir. C'est alors que je me mariai. J'épousai une jeune fille fort jolie, et, ce qui vaut mieux, très bonne et très aimante, mais sans fortune. C'était un tort grave aux yeux du monde d'employés dans lequel je vivais. On y est très positif. On ne voit guère dans le mariage qu'une bonne affaire, et on y prend volontiers pour règle que si le mari apporte à déjeuner, la femme doit apporter à dîner. Or, ma femme et moi, nous avions à peine à nous deux de quoi chichement souper. On cria très haut que j'avais fait une sottise. Plus d'un brave bourgeois de mon entourage déclara net que j'étais fou et que je gâchais à plaisir une belle situation. Néanmoins, comme ma femme était très gentille et très bonne enfant, comme nous vivions modestement, et qu'à force d'économie, nous réussissions à joindre les deux bouts, on passa condamnation sur mon imprévoyance, et la société locale daigna continuer à nous accueillir. Mon directeur était riche. Il aimait la représentation et se piquait de faire bonne figure dans le monde. Il recevait souvent, donnait de plantureux dîners, et de temps à autre, invitait à une sauterie les familles des fonctionnaires et des notables de la ville. Au bout d'un an, ma femme, étant souffrante, dut garder la maison, et bien que j'eusse préféré lui tenir compagnie, je fus obligé d'assister seul aux réceptions directoriales, car mon chef n'admettait pas qu'on déclinât ses invitations, et chez lui, ses employés devaient s'amuser par ordre. Justement, un peu avant la naissance de mon premier enfant, il y eut un grand bal à la direction et, naturellement, il me fallut bon gré mal gré endosser mon habit noir. À l'heure du départ, tout en élaborant le nœud de ma cravate blanche, ma femme m'adressa force recommandations. « Ce sera très beau. N'oublie pas de regarder afin de tout me raconter en détail. Les noms des dames qui seront à la soirée, leur toilette et le menu du souper. Car il y aura un souper. Il paraît qu'on a fait venir de chez Chevet des tas de bonnes choses. Des primeurs. On parle de pêches qui ont coûté 3 francs pièce. Oh, ces pêches. Sais-tu, si tu étais bien gentil, tu m'en rapporterais une. » J'eus beau me récrier, lui remontrer que la chose était peu pratique et combien il était difficile à un monsieur en habit noir d'introduire un de ses fruits dans sa poche sans risquer d'être vu et mis à l'index. Plus j'élevais d'objections et plus elle s'entêtait dans sa fantaisie. Rien de plus facile, au contraire. Au milieu du va-et-vient des soupeurs, personne ne s'en apercevra. Tu en prendras une comme pour toi et tu la dissimuleras droitement. Ne hausse pas les épaules. Soit, mettons que c'est un enfantillage, mais depuis que j'ai entendu parler de ces pêches, j'ai un désir fou d'y goûter. Promets-moi de m'en rapporter au moins une, jure-le-moi. Le moyen d'opposer un refus catégorique à une femme qu'on aime. Je finis par murmurer une promesse vague et me hâtai de partir. Mais au moment où je tournais le bouton de la porte, elle me rappela. Je vis ses grands yeux bleus se tourner vers moi, tout brillant de convoitise. Et elle me cria encore, « Tu me le promets ?» Un très beau bal. Des fleurs partout, des toilettes fraîches, un orchestre excellent. Le préfet, le président du tribunal, les officiers de la garnison, tout le dessus du panier se trouvait là. Mon directeur n'avait rien épargné pour donner de l'éclat à cette fête, dont sa femme et sa fille faisaient gracieusement les honneurs. À minuit, on servit le souper et par couple, les danseurs passèrent dans la salle du buffet. Je m'y faufilai en palpitant et à peine entré, j'aperçus en belle place, au milieu de la table, les fameuses pêches envoyées par Chevet. Elles étaient magnifiques, les pêches, disposées en pyramide, dans une corbeille de faïence de Lunéville, douillettement espacées et serties par des feuilles de vigne. Elles étalaient avec orgueil leurs couleurs appétissantes, ou des rougeurs foncées diaprées le bleu verdâtre de la peau veloutée. Rien qu'à les voir, on devinait la fine saveur parfumée de la chair rosée et fondante. De loin, je les caressais de l'œil, et je songeais aux joyeuses exclamations qui m'accueilleraient au retour si je parvenais à rapporter à la maison un échantillon de ces fruits exquis. Elles excitaient l'admiration générale. Plus je les contemplais, plus mon désir prenait la forme d'une idée fixe et plus fort s'enfonçait dans mon cerveau la résolution d'en chiper une ou deux. Mais comment ? Les domestiques préposés au service faisaient bonne garde autour de ces rares et coûteuses primeurs. Mon directeur s'était réservé le plaisir d'offrir lui-même ses pêches à quelques privilégiés. De temps en temps, sur un signe de mon chef, un maître d'hôtel prenait une pêche délicatement, la coupait à l'aide d'un couteau à lame d'argent et présentait les deux moitiés sur une assiette de sèvre à la personne désignée. Je suivais avidement ce manège et je voyais en tremblant s'effondrer la pyramide. Néanmoins, on n'épuisa pas le contenu de la corbeille. Soit que la consigne eût été maladroitement exécutée, soit qu'on y mit de la discrétion, quand les soupeurs, rappelés par un prélude de l'orchestre, se précipitèrent dans le salon, il restait encore une demi-douzaine de belles pêches sur un lit de feuilles vertes. Je suivis la foule, mais ce n'était qu'une fausse sortie. J'avais laissé mon chapeau dans une encoignure, un chapeau de forme qui m'avait considérablement gêné pendant toute la soirée. Je rentrai sous prétexte de le reprendre, et comme j'étais un peu de la maison, les domestiques ne se méfièrent pas de moi. D'ailleurs, ils étaient occupés à transporter à l'office la vaisselle et les verres qui avaient servi aux soupeurs, et à un certain moment, je me trouvais seul près du buffet. Il n'y avait pas une minute à perdre. Après un furtif coup d'œil, à droite et à gauche, je m'approchai de la corbeille, je fis rouler prestement 2 pêches dans mon chapeau, où je les tamponnai à l'aide de mon mouchoir. Puis, très calme en apparence, très digne, bien que j'eusse un affreux battement de cœur, je quittai la salle à manger en appliquant soigneusement l'orifice de mon couvre-chef contre ma poitrine et en y maintenant, à l'aide de ma main droite, passée dans l'ouverture de mon gilet, ce qui me donnait une pose très majestueuse et quasi napoléonienne. Mon projet était de traverser doucement le salon, de m'esquiver à l'anglaise et, une fois dehors, de rapporter victorieusement à la maison les deux pêches enveloppées dans mon mouchoir. La chose n'était pas aussi facile que j'avais pensé tout d'abord. On venait de commencer le cotillon. Tout autour du grand salon, il y avait un double cordon d'habits noirs et de dames mûres, entourant un second cercle formé par les chaises des danseuses. Puis, au milieu, un large espace vide où valsaient les couples. C'était cet espace qu'il me fallait traverser pour gagner la porte de l'antichambre. Je m'insinuais timidement dans les interstices des groupes, je serpentais entre les chaises avec la souplesse d'une couleuvre. Je tremblais à chaque instant qu'un brutal coup de coude ne vint déranger la position de mon couvre-chef et ne fît choir les pêches. Je les sentais balloter dans l'intérieur de la coiffe et j'en avais chaud aux oreilles et aux cheveux. Enfin, après bien des peines et bien des transes, je débouchais dans un cercle au moment où on organisait une nouvelle figure. La danseuse est placée au centre des danseurs qui exécutent autour d'elle une ronde en lui tournant le dos. Elle doit tenir un chapeau à la main et en coiffer au passage celui des cavaliers avec lequel elle désire valser. À peine avais-je fait deux pas que la fille de mon directeur, qui conduisait le cotillon avec un jeune conseiller de préfecture, s'écria « Un chapeau ! Il nous manque un chapeau !» En même temps, elle m'aperçut avec mon tuyau de poil collé sur ma poitrine. Je rencontrai son regard et tout mon sang se figea. « Ah ! Me dit-elle, vous arrivez à point, vide votre chapeau !» Avant que j'eusse pu seulement balbutier un mot, elle s'empara de mon chapeau si brusquement que du même coup, les pêches roulèrent sur le parquet, entraînant mon mouchoir et deux ou trois feuilles de vigne. Tu vois d'ici le tableau ? Les danseurs riaient sous cap en contemplant mon méfait et ma mine déconfite. Mon directeur fronçait le sourcil, les gens graves chuchotaient en me montrant du doigt, et je sentais mes jambes fléchir. J'aurais voulu m'enfoncer dans le parquet et disparaître. La jeune fille se pinça les lèvres pour réprimer un éclat de rire, puis, me rendant mon chapeau, « Monsieur Herbelot, me dit-elle, « ramassez donc vos pêches !» Les rires partirent de tous les coins du salon. Les domestiques eux-mêmes se tenaient les côtes, et pâles, hagards, chancelants, je m'enfuis, écrasé de confusion. J'étais si égaré que je ne trouvais plus la porte et je m'en allais, la mort dans le cœur, conter mon désastre à ma femme. Le lendemain, l'histoire courait la ville. Quand j'entrai dans mon bureau, mes camarades m'accueillirent par un « Herbelot, ramassez vos pêches !» qui me fit monter le rouge visage. Je ne pouvais hasarder un pas dans la rue sans entendre derrière moi une voix murmurer « C'est le monsieur aux pêches !» La place n'était plus tenable, et 8 jours après, je donnai ma démission. Un oncle de ma femme m'avait un terrain de culture aux environs de ma ville natale. Je le priai de me prendre comme auxiliaire. Il y consentit et nous nous installâmes à Chanteraine. Que te dirais-je encore ? Je mis résolument la main à l'œuvre, me levant avec l'aube et ne plaignant pas ma peine. Il paraît que j'avais plus de vocation pour la culture que pour les paperasses, car je devins en peu de temps un agriculteur sérieux. Le domaine prospéra si bien qu'à sa mort notre oncle nous le laissa par testament. Depuis, je l'ai arrondi et je l'ai amené à l'état satisfaisant où tu vas le voir. Nous étions arrivés à Chanteraine. Nous y pénétrâmes par un verger plein de fruits. Les branches, chargées de pommes, de poires et de couettes, pliaient jusqu'à terre. À l'extrémité du clos, une prairie en pente déballait vers la rivière bleuissante, au-delà de laquelle se relevait un coteau de vigne où les raisins commençaient à grossir et où les grives chantaient. À gauche, derrière les arbres, un ronflement de batteuses indiquait l'emplacement des granges, et quand nous eûmes traversé le potager, nous aperçûmes la façade blanche de la maison d'habitation où grimpaient en espalier des pêchers couverts de belles pêches mûrissantes. Tu le vois, je rends un culte aux pêches. Je leur dois mon bonheur. Sans elles, je serais resté un mince fonctionnaire, tremblant au moindre froncement de sourcil d'un préfet, grossissant la meute déjà trop nombreuse des employés qui ont grand-peine à joindre les deux bouts, tandis que je fais pousser mon blé et je suis mon maître. Au même moment, j'entendis le joyeux rire de garçons et de filles à l'intérieur du logis, et à la fenêtre du rez-de-chaussée, dans l'encadrement des espaliers couverts de pêches, Madame Herbelot apparut, robuste et belle encore aux approches de la quarantaine, pêche mûre et dorée par la chaude lumière d'un magnifique soleil couchant. Ainsi s'achève Les Pêches par André Theuriet.